Bonjour et bienvenue sur Radio Rollist, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en novembre 2011 et c'est le numéro 10. Bonjour à tous. Ce mois-ci, je ne suis pas avec Cyril, qui m'a fait faux bond, le salopard. Mais à sa place, j'ai une recrue de choix en la personne d'Antoine Bugly. Bonjour Antoine.
Bonjour David. Et bonjour Cyril. Ah mais il n'est pas là.
Bah non. Et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Antoine, pour ce numéro un petit peu spécial, j'ai fait un sommaire un petit peu à la carte en récupérant des... Une interview que j'ai faite il y a bien 6 mois, puisque c'était lors du dernier Orchidée. Et donc il s'agit d'une interview de Christophe Beclet, donc le chantre du jeu indépendant en France.
Oui, et animateur du site Silent Drift.
Et animateur de Silent Drift. Et donc cette interview est très longue et très intéressante et elle sera en deuxième partie d'émission. Interview pendant laquelle il présente 3 jeux indés assez représentatifs quelque part. Donc il y a Polaris, il y a Dogs in the Vineyard et le dernier c'est... Alors, contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, Antoine, c'est pas Puddle, c'est celui qui vient avant, The Pool. Et en première partie, eh bien, toi qui vas nous parler de...
Oui, je vais parler d'Eclipse Phase. En fait, Eclipse Phase qui est le jeu de rôle dans lequel je bosse un peu ces temps en tant que meneur de jeu, donc ça me paraît adéquat.
Et lorsque l'on en a parlé, du choix du jeu qui aurait tes faveurs... moi, j'étais très intéressé par Eclipse Phase, qui est donc avec Transhuman Space, l'un des deux jeux sur le transhumanisme.
Oui, il y en a plus que ça. On pourrait aussi citer, par exemple, aussi...
peut-être Free Market.
Ou Free Market, c'en est un.
D'une certaine mais façon, aussi... mais c'est pas le cœur
du aussi,
jeu,
je pense. Oui, mais il y a Sufficiently Advanced aussi.
Ah oui, exact.
Qui est probablement encore plus éloigné de l'humanité normale comme on l'aperçoit que Eclipse Phase.
D'accord.
Et bon, il y en a encore d'autres en fait. Je pense que dans une certaine mesure, la V3 de Cyberpunk pourrait évidemment correspondre un peu à cette description pour certains aspects. Mmh. Et puis, voilà, je suis en train de contempler mon étagère et je me dis que dans le tas, il doit bien y avoir quelque chose de transhumaniste. Mais...
Alors, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais un petit peu expliciter la notion de transhumanisme ?
Bon, la notion, le transhumanisme vient d'une idée que, en fait, à partir d'un certain point dans l'évolution de la société humaine, on commence à apporter de telles modifications déjà à la manière dont les humains interagissent les uns avec les autres, ou même à apporter des modifications au corps humain lui-même. Enfin, à partir de ce moment-là, on n'arrive plus à dire avec précision, bon ben voilà, tu joues un humain, 2 bras, 2 jambes, 1 tête, un corps à peu près standard. Il peut y avoir toutes sortes de variations qui sont admises en fait par le fait que ce qui définit finalement l'humain, ou en l'occurrence le transhumain, c'est une notion d'ego, en fait, d'identité, de personnalité, et puis de ses interactions en fait avec la société qui va autour. Alors, en gros, l'idée c'est que on considère comme équivalent toutes sortes d'entités, d'individus, d'entités intelligentes, donc dérivées par exemple de l'être humain de base,
oui.
Ou des intelligences artificielles. Ou encore des êtres extraterrestres ou des animaux upliftés, en fait, où on leur a attribué des caractéristiques qui leur permettent en fait, de penser, de raisonner, d'être conscients d'eux-mêmes, et ainsi de suite.
À la façon de ce qu'il y a, par exemple, dans Mare Stellaire.
Exactement, oui. Ce serait une idée de base. Mais l'idée du transhumanisme, en fait, on peut trouver, il y a pas mal de documentation sur le web. Ça intervient généralement à partir d'un événement qu'on appelle la singularité, qui est en gros un point dans le temps où on aura tellement évolué au niveau technologique, scientifique, social, ou enfin n'importe quoi, qu'il se produira un moment, un incident, qu'on appelle donc la singularité, qui est en quelque sorte définie comme étant la fin de l'histoire. On peut anticiper à peu près les événements, comment ils vont évoluer dans les lignes générales jusqu'à un certain point dans le temps, mais la singularité fait qu'à partir de là, en fait, les règles sociales sont remises à zéro. Et on peut pas. En fait, on dit c'est la fin de l'histoire parce qu'au-delà de ça, on ne sait pas du tout comment les choses tourneraient. En fait, elles sont en dehors de notre perception moderne.
D'accord, donc en fait c'est une fausse phrase. Enfin, ça n'a pas de sens de dire que c'est la fin de l'histoire. C'est juste la fin du prévisible en tout cas.
Comme disait il y a un recueil de nouvelles de Lucius Shepard qui porte ce nom tout à fait adéquat, La fin des temps. Entre parenthèses, pour ce que nous en savons.
Oui, c'est exactement ça.
Mais après, bon, dans le cadre du jeu de rôle, de toute façon, c'est aussi quelque chose quelque part un peu mensonger, puisque on joue généralement dans ces univers transhumanistes après la dite singularité, donc on peut donc anticiper ce qui s'y passe, n'est-ce pas?
Oui. Bah, à
Bon.
partir du moment où on a la description de l'état des choses, on peut les décliner, quoi.
Mais en général, on peut plutôt admettre que la singularité est considérée comme un événement fondamentalement catastrophique, en bien ou en mal, en fait, mais qui réellement change totalement la donne, en fait. Et à partir de là, bon, je suis pas réellement un expert en transhumanisme et en histoire du futur, hein, mais c'est comme ça que je me souviens les choses, comme je les lis et comme je les ai perçues jusqu'à présent. Donc, en bref, en fait, si on fait juste une petite comparaison des différents jeux qui existent en fait dans ce contexte-là, ce sont donc des jeux de rôle qui ont pour ambition de faire vivre un futur étrange et déstabilisant aux joueurs. Ah oui, je me souviens d'un autre encore de ces jeux transhumanistes-là qui s'appelle Shock, c'est Social Fiction Role-Playing Game, qui est probablement l'alien le plus gravement atteint de la collection.
Ah, je le connais même pas de titre celui-là.
Dans les jeux indépendants, c'est un classique en fait qui est écrit par Joshua Newman, qui est accompagné en fait d'un autre supplément qui s'appelle Human Contact. En gros, l'idée c'est que bon, bah, c'est de la science-fiction sociale où tout le système de jeu est construit autour d'idées qui dérangent les autres joueurs autour de la table. D'accord.
Mais encore.
Eh bien, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un autour de la table a une phobie des limaces, il y a quelqu'un autour de la table, un autre joueur, qui aura un morph en forme de limace, typiquement. Bon, c'est en bref, hein, faudrait entrer dans le détail, mais c'est un jeu qui est réellement conçu autour de l'inconfort et de l'aspect désagréable de société qu'on ne peut pas imaginer maintenant, en fait.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'en est un. On parlait tout à l'heure de. Comment il s'appelle le truc de. Ah.
Lequel? Deux jeux?
Ah oui. Oui, Transhuman Space.
Transhuman Space, ouais.
Transhuman Space reste très. Il est plutôt pré-singularité, dans le sens où il ne s'est encore rien passé de réellement catastrophique, mais on est gentiment en train de s'y acheminer, quoi. Donc. On pourrait presque dire dans un sens que Transhuman Space se déroule avant les événements catastrophiques, en fait, qui sont la toile de fond de Eclipse Phase. Qu'est-ce qu'on avait encore là? Ah oui, Free Market. Oh, Free Market, on joue des gens qui magouillent et qui échangent des trucs dans une station spatiale. C'est bien secoué comme jeu. Très honnêtement, je n'ai absolument aucune idée si c'est réellement jouable, mais
Il faudrait
l'idée, elle avait.
essayer parce que le matériel de jeu est magnifique.
Le matériel de jeu est magnifique, le jeu est rigolo à lire, réellement, et puis plein d'idées, de trucs qui partent dans tous les sens. C'est un jeu qui est conçu par Luke Crane, qu'on connaît aussi pour Burning Wheel et puis Les Légendes de la Garde.
Oui.
Et j'ai un blanc. Je vais être obligé de regarder. Jared Sorensen, il est un des animateurs du monde du jeu de rôle indie américain et responsable de plusieurs projets plus ou moins expérimentaux et assez discutés en fait. Personnellement, j'aime assez ce qu'il fait, mais il y a des gens qui trouvent franchement que c'est pas ça. À mon avis, c'est une question de goût, c'est tout.
Ouais, voilà. Oui, voilà. Ouais, mais en tout cas, ça a vraiment du caractère, en fait, ce qu'il fait.
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a des idées pas toujours bien mises en pratique, mais qui ont le mérite d'être suffisamment idiotes pour qu'on ait envie d'essayer. Et ouais, enfin voilà quoi. Donc c'est sur le panel, un peu comme ça, il y a des trucs. Pour le dernier, Sufficiently Advanced, alors le nom vient de Arthur C. Clarke. C'est, sauf erreur, une phrase, ça vient de la phrase qui dit que
toute science suffisamment avancée est indistinguable de la magie, c'est ça?
Voilà, c'est ça exactement. On a conquis la galaxie, les gens sont numérisés, ont des copies de backup et tout, et les personnages sont des agents du bureau des brevets et de la propriété intellectuelle qui, en fait... se balade dans la galaxie pour chasser les pirates et les faussaires, en fait. Ça paraît idiot comme ça, mais vu le contexte et vu la manière dont le jeu est écrit, c'est réellement diablement intelligent.
Bah, tout tourne autour de ça, en fait, puisque oui, ne reste la seule chose importante, c'est les données.
C'est les données, c'est la création authentique, c'est à partir du moment où on a à disposition ce qu'on appelle les cornes d'abondance. Cornucopia en anglais. Uh-huh. La corne d'abondance, en fait, est un dispositif nanotechnologique qui permet de reproduire n'importe quoi à l'identique. En
c'est
fait.
Un peu ce qu'il y a dans Star Trek, il me semble aussi.
Oui, je sais pas. Moi, Star Trek, tu vois, à part les pyjamas et les agrafeuses.
Ah non, les agrafeuses. Les agrafeuses.
Ça, non, mais je me trompe, c'est dans Space 1999.
Attends, c'est dans Space
1999. 1999.
Oui, oui, non, c'était parce que ça craquait, voilà.
Parce qu'ils ont des agrafeuses, ils se tirent dessus avec des agrafeuses laser.
Ah oui, c'est vrai, exact. Et il y a également les mêmes agrafeuses dans le film de Dune, je crois. Les modules étranges de l'armée ressemblent à ça aussi.
Oui, avec un micro.
Oui, peut-être bien.
Bon, donc Eclipse Phase.
Oui, alors, Eclipse Phase...
Alors, Eclipse Phase est un jeu de rôle, donc on peut s'y attendre, qui a été conçu par une équipe d'Américains qui, en fait, travaille sous le nom de Posthuman Studio. Ces gens, en fait, sont connus individuellement. Donc, il y a Adam Jury, Robert Boyle, en fait, une clique de personnages comme ça. Ils sont connus pour avoir travaillé au préalable sur plusieurs jeux de science-fiction et autres productions, notamment les deux dernières éditions de... Ils ont travaillé en tout cas sur la dernière édition de Shadowrun, donc au niveau de la rédaction, de sa conception, des modifications de son système de règles, et bon, probablement d'autres choses encore, mais il faudrait regarder. Disons que Rob Boyle et Adam Jury ont un peu l'habitude de bosser ensemble sur ces projets-là, donc voilà. Alors, il a été annoncé en 2007, sauf erreur. Donc, il y avait un site assez mystérieux qui présentait une image. On voyait en fait l'image qui est devenue la couverture du livre avec une station spatiale en ruine, un individu en scaphandre spatial là, qui est en train de se faire happer par une sorte de tentacule bizarroïde. Et c'était présenté comme étant un jeu d'horreur et de conspiration transhumaniste. Donc en fait, il y a dans le contexte énormément de conspiration, de choses assez épouvantables en fait, si on les lit. On présente un monde après tout qui est gentiment en train, enfin qui est en train de se remettre très très difficilement d'une catastrophe d'ordre global. Et en gros, voilà. Donc le jeu était présenté comme ça, comme étant une sorte de compilation de ce que la science-fiction de ces dernières années, spécialement la science-fiction anglaise, a produit comme chose et comme concept étrange dans le domaine du futurisme. Alors, on peut trouver des inspirations qui viennent de différents auteurs. Le premier de la liste, évidemment, Ian Banks, qui a, avec ses écrits, énormément influencé la façon dont les entités artificielles sont perçues et dont le monde lui-même est expliqué avec une certaine ironie, avec un goût pour le sarcasme et pour l'épouvante grotesque, quelque part. Ensuite, ils ont aussi parlé de Greg Beer, David Breen, Paul DiFilippo, Cory Doctorow, Greg Egan, on en a toute une collection comme ça. Et chacun de ces auteurs a amené un ou deux éléments. Donc on peut retrouver par exemple Richard Morgan, l'auteur de Carbone Modifié.
C'est pas Avance Rapide aussi, un truc comme ça?
Non, Avance Rapide.
Fast Forward.
Avance Rapide, non, c'est pas lui.
Non, je confonds, effectivement.
Ben, y a Charles Stross pour Accelerando, éventuellement, qui est aussi bien cité. Du côté pur horreur, je pense que l'inspiration de Peter Watts est clairement visible. Si vous appréciez de vous faire froid dans le dos avec des histoires de vaisseaux spatiaux, avec un équipage composé de zombies parce que c'est plus facile à gérer. Peter Watts, Blindsight et tout ça, c'est... Mais bref, donc on se retrouve avec un contexte qui est une compilation, qui est une synthèse de toutes ces avancées dans le domaine de la fiction d'anticipation. Et qui fait, à ma foi, un excellent travail. Donc on a un univers qui tient debout, qui est d'une élégance assez remarquable, et puis en fait qui donne vraiment envie de jouer. Alors si je reviens un peu sur les particularités au départ de ce projet, donc on avait donc cette idée qui présentait le contexte, qui donne vraiment envie, et ensuite, dès le départ, les auteurs avaient annoncé que Eclipse Phase serait disponible sous la forme aussi, sous une licence Creative Commons. Donc tout Eclipse Phase, à l'exception de quelques illustrations dans le livre de base, ne peut pas être piraté, en fait, puisque toutes les copies PDF qui circulent sur les réseaux de file sharing et autres, finalement, circulent avec l'authentique bénédiction des éditeurs et des auteurs de Eclipse Phase.
D'ailleurs, j'ai lu récemment un troll à ce sujet sur la version française de Eclipse Phase.
Un troll à ce sujet ?
Oui. Oui, c'est quelqu'un qui voulait savoir si la version traduite serait également en Creative Commons.
Alors, elle le sera. J'ai cherché, j'ai obtenu confirmation. Je pense que nous avons lu le même troll, mais en fait... L'édition française qui va arriver incessamment et qui est faite par les gens de chez Black Book Edition, va respecter donc l'esprit. Donc il s'agit d'un portage de licence aussi, parce que la licence Creative Commons qui a été utilisée pour l'Eclipse Phase d'origine est la licence, je dirais, de type anglo-saxon américain. Et les conditions légales ne sont pas du tout les mêmes, en fait, avec la plupart des pays d'Europe. J'ai vérifié en ce qui concerne la Suisse, la France et puis d'autres pays, en fait, la licence Creative Commons en langue française existe pour la loi française, mais ne permet pas, en fait, de faire toutes les attributions et les choses qui existent, en fait, dans la version américaine.
D'accord.
Par exemple, La grosse différence qu'on a entre les deux, c'est que bon, on peut diffuser le truc, on peut partager, on peut modifier tant qu'on travaille, tant qu'on ne fait pas ça dans un but commercial. Hein. Ça, c'est le choix particulier de la licence spécifique qu'ils utilisent eux. Donc, la différence avec la version française, c'est que la loi française ne permet pas de... En fait, on ne peut pas dire voilà, j'ai écrit quelque chose, maintenant c'est plus à moi, je n'en suis plus l'auteur, c'est quelqu'un d'autre. C'est impossible. On ne peut pas lâcher complètement la prise qu'on a sur un texte.
Le droit moral est sans fin, quoi.
Oui, exactement. Il n'est pas possible de renoncer complètement à la propriété intellectuelle qu'on aurait sur la conception d'un texte ou quelque chose comme ça. C'est une approche différente. Mais par contre, puisqu'on est nous-mêmes en tant qu'auteurs, traducteurs et autres responsables de ce qu'on a fait, on peut parfaitement autoriser quiconque en somme, on en devient un peu le défenseur, quoi, le coordinateur principal, ou je sais pas. Mais...
D'accord.
Mais voilà. Bon. Mais toujours est-il que donc la version française sera autant que possible distribuée sous forme, enfin sous licence Creative Commons, avec les quelques variations qui sont impliquées par la loi locale, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire en fait que Black Book aura la possibilité de faire comme l'éditeur américain, de mettre à disposition ce qu'ils appellent des hack packs, où en gros on achète le PDF du bouquin plus les fichiers InDesign plus le texte brut et ainsi de suite.
Ah et... putain, c'est fou ça. C'est ouais. Vrai, avec ils fournissent même la maquette.
Oui, tu peux vérifier si vous allez sur eclipsephase.com. Alors eclipsephase.com, ce qui est le site américain du projet. Dans la boutique, en fait, il y a toute une série de possibilités. On voit chaque fois les suppléments, les nouvelles, les différents trucs qui sont disponibles, avec pour la plupart d'entre eux un hack pack qui est donc le support InDesign et compagnie pour pouvoir faire soi-même la mise en page.
Ah, j'ignorais que c'était se pousser à ce point-là, en fait.
Ah non, c'est poussé très très loin. Et c'est un sacré pari qu'ils ont fait, parce qu'on aurait pu imaginer qu'ayant à disposition des PDF gratuitement avec la bénédiction des auteurs, que en fait le livre se vendrait très très mal.
Ouais.
Bon, ben en fait ils en sont à la troisième impression, donc ça marche. Ils ont des précommandes qui se chiffrent quand même de manière assez élevée sur les versions physiques cartonnées et en dur des suppléments.
Ouais.
Vu la qualité générale de la gamme, je pense que cette ouverture de distribution, qui est très très dans l'esprit du monde Eclipse Phase, ouais. Je pense qu'elle a fait énormément de bien et elle a fait énormément pour contribuer à répandre finalement le goût pour ce jeu. Donc c'est plus facile, on sait qu'on peut récupérer les PDF, on peut les demander à quelqu'un qui les a déjà, il n'y a pas de problème, on est dans notre droit, la légalité la plus totale. On lit, on constate que le truc est quand même... Franchement, ça le fait.
Voilà, et ça donne envie de l'avoir en vrai papier.
Et voilà, et comme les rôlistes sont quand même dans leur immense majorité des bibliophiles, des gros geeks de la reliure et du beau papier, ils font comme moi, et comme plein d'autres joueurs que je connais, ils cèdent à la tentation.
Oh, voilà, tu sais que j'ai raté la boîte de Mousse Guard en français.
Oui, j'ai pris l'avant-dernière.
Oh. Tu pourras me la prêter ?
Oui. Alors, je vais parler en quelques mots de Eclipse Phase, donc l'univers dans lequel le jeu se déroule, les règles et puis un peu le supplément, ce qui a déjà été publié et sous quelle forme. Alors, la première chose, pour ce qui concerne l'univers, qui est à mon avis la partie réellement la plus intéressante du jeu en lui-même, en gros, tout se passe dans un futur assez relativement proche, disons, on va dire, mettons, 200 ans, comme ça, où l'humanité est sur le point de se faire une guerre assez complète, globale et totale. Ils ont, les humains dans leur ensemble ont mis au point des technologies de destruction massive qui sont, qui font penser, en fait, que finalement, pouvoir éteindre une ville entière avec juste une bombe, comme si c'était une vulgaire flamèche, c'est encore quelque chose d'assez raisonnable comme destruction. Et donc la situation s'aggravait gentiment jusqu'à un point dans l'histoire où un point que je vais appeler pour plaisanter le point Skynet.
Ok.
les humains ont lâché dans la nature une collection d'intelligence artificielle de guerre qu'on appelle les Titans. Donc c'est une abréviation que je sais pas où mes notes sont, donc il faut trouver. Bon, bref, c'est une abréviation de ce qui représente une collection de machines dédiées à la guerre instantanée. Et en fait, ces machines, apparemment, on ne sait pas vraiment si c'est elles qui ont commencé, si leur prise d'autonomie et leur attaque de l'espèce humaine s'est faite en réaction à d'autres choses. Les événements de cette période-là sont très très flous. Mais toujours est-il, en gros, que globalement, les Titans ont ravagé la planète Terre. Et sur les quelques 20 milliards d'habitants que comptait la Terre et son plus proche voisinage, Très peu ont survécu et finalement on est là actuellement dans un contexte où on a une espèce transhumaine généralement qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc il reste environ 300 millions d'identités d'individus réparpillés partout dans le système solaire.
D'accord.
La Terre peut être considérée comme étant zone totalement détruite, donc c'est une planète qui est hostile, qui est peuplée de robots chasseurs d'humains, de maladies biologiques génétiquement conçues, enfin c'est un peu trash. Mais l'avantage du contexte, c'est que du coup, la transhumanité est déracinée, n'a plus sa maison. En fait, quelqu'un a cassé le pot, il n'y a plus rien dedans. On ne peut pas se baser sur notre géopolitique actuelle pour se dire « Oui, mais bon, les habitants de tel continent, c'est tous des branleux » et ainsi de suite. Il n'y a plus. Ça n'a plus lieu d'être. La Terre est détruite. Donc, au petit lendemain donc, de cette catastrophe, les humains qui ont pu quitter la planète l'ont fait. Donc on a parmi les chanceux, il y a ceux qui ont réussi à quitter le sol, je dirais sous forme physique, avec un corps et tout. Ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, mais qui ont quand même réussi à s'enfuir et à quitter le sol avant que tout soit détruit, l'ont fait, en fait, se sont fait numériser dans des centres de numérisation massifs et se sont fait télécharger à distance dans une des nombreuses stations spatiales qui peuplent déjà, en fait, qui émaillent déjà le système solaire. Donc ceux-là, on les appelle les infugiés, parce que souvent, ils sont arrivés à destination, et c'est des gens à qui on a pu seulement offrir quelques dizaines de kilo-octets dans un disque dur pour pouvoir se stocker peinard.
D'accord.
Et suivant les cas, suivant les sociétés, suivant les stations dans lesquelles ils ont débarqué, les communautés dans lesquelles ils sont arrivés, ils peuvent s'être trouvés dans des situations plutôt tragiques. En fait, on voit, je dirais, une forme d'esclavagisme moderne qui renaît, où pour pouvoir s'acheter un nouveau corps, les gens sont obligés de bosser gratuitement pendant 10 ans et tout ça, quoi.
D'accord.
Donc il y a une dureté du concept déjà qui apparaît là.
Tous ces gens sont immortels de par définition.
Tous les gens, alors oui, la situation qui fait que maintenant tout le monde est équipé ou peu s'en faut de ce qu'ils appellent une pile corticale, cortical stack, qui est un dispositif de stockage qu'on implante au bas du crâne et dans lequel on peut faire des backups de soi-même à intervalles réguliers. Donc du coup, tous les gens qui meurent ou qui décèdent, ben en fait, si on peut récupérer la pile corticale, on peut récupérer la dernière version du bonhomme et puis le réinstancier, soit sous forme numérique, soit dans un corps.
Et on peut faire des sauvegardes un peu avant
On peut faire des sauvegardes un peu avant, oui. Alors, juste pour revenir sur l'idée de l'histoire, là, donc, quand les gens se sont massivement numérisés pour quitter la planète, les centres de numérisation se sont aussi transformés en nécropoles, parce qu'au fur et à mesure que les gens étaient numérisés, ils se suicidaient pour éviter d'être capturés par les outils de numérisation forcée des titans, quoi.
D'accord.
Donc c'est le titan, globalement, leur espèce de présence s'est effacée du système solaire tout à coup du jour au lendemain, au moment où on pensait qu'ils allaient complètement détruire l'espèce humaine.
Ouais.
Ils ont levé l'ancre, ils ont disparu totalement et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas où ils sont passés. Mais ils ont laissé derrière eux ce qu'on appelle les Pandora Gates, qui sont des portails un peu à la Stargate, justement. Il y en a un peu partout dans le système solaire, enfin un peu partout. Il y en a une dizaine, disons,
ouais,
qui sont pour lesquels, en fait, les différentes hypercorporations et factions qui émaillent le jeu se font une guerre sans pitié, en fait. Le contrôle de ces portails permet, en fait, d'accéder à un réseau de portails et de systèmes solaires et d'endroits sur lesquels l'espèce humaine pourrait éventuellement prospérer.
D'accord.
Voilà. Donc, on a un contexte post-apocalyptique avec une technologie ultra-futuriste, avec un système solaire dans lequel on se déplace à des vitesses largement inférieures à celles de la lumière, sauf si on se télécharge, parce qu'on fait des téléchargements en utilisant des liens quantiques qui sont instantanés. Donc on peut, dans le jeu, faire un bond d'une planète à l'autre en égocastant son personnage, enfin la personnalité du personnage, d'un point à un autre. Ça a un coût. Donc pour la partie toile de fond, c'est ça. Ensuite, on a donc dans le système solaire des corporations qui ont commencé à exploiter les ressources du système, donc des ressources soit minières, soit énergiques. Énergétiques, pardon.
Ces ressources énergiques.
Oui, donc on a ces hypercorporations qui sont répandues un peu partout avec leurs propres idéaux, qui vont du libéralisme le plus sauvage au paternalisme, à l'esclavagisme numérique et tout. Il y a des factions politiques aussi qui vont soit du centralisme gouvernemental aux anarchies plus ou moins frappadingues où les choses se décident par consensus sur des forums numériques ou virtuels ou des choses comme ça.
D'accord.
Et puis du coup on a un système solaire qui est en gros je dirais qui est grosso modo divisé en deux régions. Il y a en fait ce qui est Sunward, donc en direction du Soleil, qui englobe tout ce qu'il y a depuis la ceinture d'astéroïdes jusqu'au Soleil lui-même, et où en gros on a des États, des corporations et des systèmes gouvernementaux qui sont généralement assez durs, assez corporatistes et très, très pyramidaux. Avec quelques exceptions un peu étranges où Saturne est une planète où chaque état est en réalité une cité indépendante flottant dans les nuages, où Mars est une utopie communiste qui a très très mal tourné, qui est la planète la plus peuplée du système solaire actuellement, puisque la Terre, ça compte plus vraiment. Dans Sunward, on parle aussi des colons en fait qui vivent plus ou moins à la surface du Soleil, parce que en orbite très proche du Soleil, il y a des stations de recherche, il y a des laboratoires, des usines et des trucs comme ça, et il y a des morphes en fait, une communauté de gens qui vivent en gros dans le coin quoi, donc des espèces de baleines solaires qui nagent dans le plasma et puis c'est assez frappé quoi, donc c'est des morphes qu'on peut occuper si on veut, mais voilà.
Mais ces morphes là, oui. Ils sont faits en quoi en fait?
Alors sur la partie des morphes, en gros l'idée du jeu c'est que on sépare l'ego et les compétences du personnage de leur support physique.
Ouais.
Donc on peut être soit au bas de l'échelle, il y a l'infomorphe qui est le pur logiciel dans un monde virtuel ou l'IA ou la conscience qui vit en parasite dans le système nerveux accessoire de quelqu'un qui est équipé pour.
D'accord.
Et puis après, ces morphes peuvent être implantés et téléchargés. Ces égos peuvent être implantés et téléchargés dans différents types de corps. Alors les corps, c'est ce qu'on appelle les morphes. Et il y a une collection assez étendue de possibilités. Chaque supplément arrive avec ses propres trucs. Donc là,
Tu peux être en caniche, par exemple.
Alors non, parce qu'en fait, les morphes d'animaux, à l'exception de ceux qui sont upliftés, n'ont pas les capacités, je dirais, de calcul pour restituer un morphe, un ego humain, disons.
D'accord, ok.
C'est assez bon, il y a des limites ensuite, c'est assez marrant. Mais bon, on peut avoir, donc dans les morphes de base, il y a le corps humain, comme on le connaît maintenant, qui est à peine amélioré, disons. Après, il y a des variations, des corps qui ont été optimisés pour certaines régions plus ou moins hostiles. Donc, typiquement, les rosters qui sont les morphes biologiques développés pour vivre à la surface de Mars.
Ouais.
Après, il y a des mélanges, ce qu'on appelle les pods. Pour Pod People, en fait, c'est des mélanges de biologique et de robotique qui sont souvent bas de gamme, pas chers, et utilisés pour équiper le plus souvent les ouvriers, les esclaves sexuels et tout ça. Donc il y a des trucs assez trash là aussi. Après, il y a la partie électronique, robotique et tout, où tous les morphes, donc ça va du simple case, le moulinex de base avec une vague allure de 6 PO, ou l'unité centrale de calcul un peu plus performante qui ressemble à un vieil aspirateur Nilfisk, ou encore des nuages de nanodrones, enfin un peu tout, quoi. Tout ce qui est imaginable, tout ce qui est robotisable peut être occupé par un ego.
D'accord. Ah, tu peux te retrouver à faire le ménage en 6 PO.
Oui, tout à fait. Ou la version locale, hein, c'est... Alors, ça, c'est les morphes de base. Après, dans les suppléments, ils ont développé d'autres trucs. Alors, dans le cas des baleines, donc des héliomorphes et autres, c'est des robots, en fait, qui sont équipés d'un bouclier de plasma, en quelque sorte, qui leur permet de se protéger des vagues, des vents solaires. D'accord?
D'accord. Et j'ai aussi une autre question, c'est qu'est-ce qui gère en fait le fait que ton ego soit uploadé sur quelque chose en particulier? C'est des sociétés qui le vendent ou
Alors c'est des services, ça fait partie du contexte aussi. Je parlais avant du côté Sonward qui était donc très très policé, très pyramidal à ce niveau-là. Dans ce cas-là, tout service est payant, donc tu essayes de pas te faire voler, mais l'objectif c'est que si tu dois aller sur Mars et que tu es sur Vénus, eh bien en fait tu peux laisser le morph dans lequel tu étais jusque-là en location et avec le prix de la location te louer un morph à distance pour pouvoir t'implanter dedans.
D'accord.
Après, tu peux te faire arnaquer et te retrouver dans un aspirateur, il n'y a pas de souci. Parce que bon, on sait que les choses finiront mal, c'est évident. Et dans la partie qui est, je dirais, outward, donc qui part du système de la ceinture d'astéroïdes pour s'étendre au-delà, jusqu'au nuage d'Oort, à l'extrémité du système solaire, la tendance est plutôt au libertalisme et puis à l'anarchie. Donc là, c'est plus soit sur la lune de Titan, donc qui est la lune principale de Saturne. Une planète qui a la taille de Mars, en fait, soit dit en passant. Le gouvernement local est en gros, bon, bah déjà c'est important de le savoir, à majorité francophone, et contient une des deux plus grandes universités encore en service dans le système solaire. Alors dans ce cas-là, chez eux, c'est un service. Donc si tu te le télécharges sur Titan, en tant qu'étudiant fauché, tu recevras forcément un morph bas de gamme, certes, mais quand même pas trop pourrave, quoi.
D'accord.
Donc il y a des approches, il n'y a pas d'approche unique. Ça dépend tout du contexte politique et social dans lequel on va débarquer.
Et quel est le contexte en fait dans lequel les joueurs arrivent, enfin les personnages arrivent?
Alors le contexte est le suivant, puisque on se place une dizaine d'années après donc après la chute, après la catastrophe qui a éradiqué quasiment l'espèce humaine, il y a une organisation clandestine qui s'est créée sur différentes bases. En fait, dans les factions qui ont mené à la création de cette organisation clandestine, il y a justement l'université de Titan, il y a en fait pas mal des mouvements anarchistes, mais aussi quelques services corporatistes qui font les choses un peu en douce. Et en fait, ce groupe s'appelle Firewall, donc le pare-feu.
Oui.
Et l'objectif de Firewall est de protéger la transhumanité contre les risques existentiels, c'est-à-dire contre le risque d'éradication par les titans, typiquement.
D'accord.
Alors, il faut savoir aussi que les titans, quand ils se sont répandus à l'époque, ils ont aussi répandu des virus mentaux, des mêmes qui prenaient le contrôle de leur hôte et puis qui en faisaient... Des lolcats qui prenaient le contrôle de leur hôte et qui en faisaient des esclaves à la solde du lolcat suprême ou du titan local en chef. Donc actuellement, ces virus, ces exurgences continuent d'exister. Alors le Firewall lutte contre elles, contre toutes les tentatives corporatistes ou autres d'assujettir l'espèce humaine à quelque chose qui pourrait les mener à la destruction, en fait.
D'accord.
Donc les joueurs arrivent par défaut dans ce décor de campagne-là, où ils sont contactés par un proxy, un représentant du firewall, et sont engagés pour commencer
Un
à faire des
proxy.
missions. Ouais. Bon, je ressors la terminologie anglaise, en fait, parce que c'est celle qui est la mieux établie, en fait, mais c'est ça, ouais. Et bon, voilà. Après, on n'est pas tenu de ne jouer qu'au service du firewall. Il y a énormément de possibilités, quoi. C'est un contexte d'une richesse qui est assez effrayante, même, mais qui fait bien plaisir, parce que c'est vrai que en naviguant dans les pages des livres, on découvre quelque chose de détaillé, de complet, de fait avec attention, avec amour du détail. Et puis, avec chaque fois ce petit truc qui fait qu'on se dit, ah ouais, quand même, j'emmerderais bien mes joueurs avec ce gag-là. Ce serait vraiment. Ouais. Alors, c'est le genre de jeu qui nous met la petite lumière au fond du regard, et puis qui vraiment, ouais, c'est du beau travail, quoi.
D'accord.
Alors, bon, voilà, globalement pour l'univers, je pense qu'on pourrait entrer plus dans le détail, mais ouais, je pense que ça va venir avec ce que je vais dire maintenant sur les suppléments. Et puis après, j'aborderai. Non, je voulais parler des règles d'abord, ou bien. Je
Oui,
sais plus
tu voulais
en.
parler des règles, il me
Les
semble.
règles! Ah, les règles! Bon, pour moi, qui suis actuellement très très intéressé par la veine narrativiste du jeu de rôle, donc les jeux de rôle indie dans leur grande majorité, et puis en gros cette tentation qu'il y a de faire un système de compte interactif plus qu'un système de règles qui représente une réalité virtuelle. Pour moi, donc, les règles d'Eclipse Phase, je dirais, sont quelque chose que j'aurais accepté sans broncher il y a une vingtaine d'années. Maintenant, si je veux être honnête avec moi-même, je suis obligé de reconnaître que bah, je suis pas fan, en fait. Je n'aime pas ce mécanisme, je n'aime pas ces règles à la tigre volant ou à Parlons Alias.
Il va être
Non.
content, tiens.
Non, mais en réalité, il y a, je dirais, à peu près la même organisation dans le mécanisme. On a un mécanisme central qui est rodé, donc ça fonctionne sur un dé de pourcentage, des dés qui vont de 0 à 99, donc, où
Oui.
0,0 est toujours une réussite et 99 un échec.
D'accord.
Donc ça fonctionne avec des jets sous compétences. Et puis il y a une collection d'outils qui permettent en fait aux joueurs d'intervenir sur le résultat. En anglais, ça s'appelle le Moxie, mais en français, ça a été traduit par l'audace, qui est une réserve de points qui permet, quand je fais un jet de dés qui n'est pas correct, on peut flipper, on peut intervertir les dizaines et les unités, on peut faire des trucs comme ça.
D'accord,
Donc
ok.
il y a quand même des artefacts narrativistes, mais le système globalement est vraiment, ouais, est vraiment basé sur des recettes
Éprouvé.
hyper éprouvées et sans aucune originalité, quoi, de mon
Ah
point
oui,
de vue.
mais en fait, j'avais peur au début, mais en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste
Non, non,
que
non, non.
c'est vieux, quoi.
Alors non, non. Enfin, pour moi, si tu veux, ça reste quand même compliqué parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de règles que j'utiliserai jamais, ce qui m'embête. Mais là, je suis quand même totalement obligé d'être honnête que ce sont des règles qui tournent, elles fonctionnent, elles sont pas aussi efficaces ou aussi adaptées que je l'aurais aimé, mais elles sont, alors sans aucun doute, elles sont tout à fait fonctionnelles. C'est
D'accord. Et
ça, je dis.
toi, tu l'as maîtrisé, celui-là?
Alors, je maîtrise Eclipse Phase, oui, avec une équipe de gens que tu connais d'ailleurs.
Oui.
Et bon, voilà quoi. Finalement, pour le nombre de jets de dés qu'on fait à une partie, elles vont très très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Le seul réel défaut, en fait, et ça, franchement, je pense que c'est un défaut du système comme il est là. C'est la création de personnages qui est quand même. Ouais, ça fonctionne avec un système de répartition de points, un peu à la Rêve de Dragon, tout, avec le même problème. On a genre, je sais pas, 5000 points à répartir. Puis,
5 000.
ouais, vraiment, non, mais vraiment un tas, quoi. Attends, je vais juste retrouver dans les règles. Mais ça fait réellement un pool de points très très élevé à répartir en une fois. Et
Oui.
Bon, créer un personnage, c'est un sacerdoce, hein. Il y a des points, il y a des trucs à calculer et tout. Et ça, bon, Ce serait en fait, je dirais, supportable si on avait un jeu de rôle avec un type de personnage tout à fait normal, mais sachant qu'on peut en fait transvaser la personnalité de son personnage d'un corps à un autre, il y a tout un tas d'ajustements qu'on est obligé de refaire en fait derrière.
Ah, à chaque fois que tu changes de perso?
Ben oui, parce qu'il y a énormément de compétences qui sont limitées par les capacités réelles de ton morph. Si tu as besoin d'avoir, je veux dire, mettons que tu sois un personnage avec un morph de haute qualité et tout, bon, et tout à coup, bam, tu te retrouves dans un vieux Moulinex tout pourri, tes capacités intellectuelles seront limitées par les capacités de calcul du machin. Alors, c'est génial. C'est génial, réellement, on est dans le contexte là. On est complètement soumis à l'équipement auquel on a accès. Le problème, c'est que le système de jeu ne permet pas réellement de faire ce genre de transition de manière élégante. Donc, d'un passage à un autre, on est quand même obligé de.
Bah, tel que tu le décrivais au départ, dans mon idée, enfin dans ce que j'imaginais, c'était qu'il y avait deux feuilles de perso en fait.
Alors, il y a une feuille de perso, mais sur cette feuille de perso, il y a des colonnes clairement distinctes entre ce qui est morph et ce qui est ego.
D'accord. Mais finalement, il faudrait quasiment préparer une liste de, enfin, un tas de fiches correspondant à divers types de corps. Et puis que tu distribues aux joueurs en complément de ce qui va pas bouger, quoi.
Oui, ils l'ont déjà fait. En gros, dans les trucs qu'on peut télécharger, il y a des kits avec des prêts tirés et des personnages, des sample characters, comme ils disent, donc au
Ouais.
format iPad. Ah oui, parce que bien sûr, comme tout est disponible en PDF, il y a des fichiers qui sont aussi spécifiquement destinés aux tablettes comme l'iPad ou d'autres. Donc on
Évidemment.
peut. Mais le problème pour moi reste quand même le même, c'est que la partie. Le lien entre l'ego et le physique, entre l'ego et le morph, est encore
Trop
trop figé,
rigide,
trop rigide pour que
ouais.
ça soit réellement confortable en jeu. Alors,
D'accord.
j'en ai discuté un peu en fait avec d'autres, dont les gens de Black Book et puis ouais, sur les forums en fait de Eclipse Phase.
Oui.
L'approche qu'ils ont adoptée, donc ces règles finalement très traditionnelles, très en quelque sorte très américaines quelque part,
Ouais, c'est vrai.
elles ont été adoptées pour ne pas effrayer plus que nécessaire les clients. Donc on joue dans un monde qui est réellement terriblement dérangeant par bien des aspects. Dans les exemples vraiment trash, il y a typiquement une station spatiale qui en gros est un gros morceau de bidoche. Voilà. Il y a des trucs bien cinglés, quoi, bien bien torturés, très très noirs, mais le système est en quelque sorte un îlot de stabilité là au milieu. Mais comme ils l'ont fait remarquer, Rob Boyle et puis son équipe, ils ont dit, mais ce système-là, c'est le système par défaut qu'on vous propose pour pouvoir vous permettre de prendre contact avec le jeu, pour ne pas vous effrayer plus. Maintenant, si vous estimez que vous avez une meilleure solution, mais allez-y, quoi, Creative Commons, les gars. Donc, ils
C'est
sont
vrai.
conscients des limites, ils sont conscients des limites du système. Ils encouragent la communauté à travailler sur des solutions, à des problèmes,
Alternative, ouais.
à des alternatives, soit à des problèmes réels ou des problèmes perçus.
Par
Le
exemple,
fait que.
si Robin Law s'ennuie, tu vois, un jour, il pourra dire, tiens, je vais faire des règles pour Eclipse Phase.
Bah, par exemple, mais il y a déjà des alternatives, hein. Si on va sur le site de sur eclipsephase.com, il y a un endroit dans le. Alors attends, je vais aller. Ah, il n'y a pas de tiret Eclipse Phase, tiens. Il y a sous l'onglet ressources, en fait, une série de machins qui existent, matériel promotionnel, toolkit, fan-created material and website,
Ouais.
où on a des fichiers Excel pour calculer les personnages automatiquement. Alors
Quelle
ça, c'est.
horreur.
Non, mais en même temps, je suis très très content que ça existe parce que ça a rendu utilisable en gros le
Ouais.
transfert d'ego d'un corps à l'autre. Donc c'est
C'est
assez
ça me fait
fandard.
penser aux règles de Méga 3.
Ah,
Fallait un logiciel pour pouvoir faire pour pouvoir tirer un perso.
Non, Méga 3, ça allait. Méga 1 et 2, j'avais écrit des trucs. Donc oui, effectivement, il fallait. Et même comme ça donnait pas des résultats forcément très sensés. Mais donc, dans les alternatives de règles qui sont proposées, il y a des conversions de règles pour le D6 système, pour le système Fate, Donc, je trouve très intéressante en fait Fate parce que c'est justement cette espèce de point mitoyen entre l'ancien système super détaillé, bourré de règles pour tout et n'importe quoi, et une vision beaucoup plus orientée
Tu
narration
peux
personnage.
décrire un peu le système hein,
Pour
de
Fate,
Fate, ouais.
on pourra revenir dessus, je pense, plus tard une
Ah
autre
ouais,
chronique parce que
et il faudrait
c'est.
faire une émission spéciale système.
On pourrait, ouais, faudrait qu'on voit avec Cyril, quoi.
Ouais.
Mais en gros, Fate utilise comme base un système qui s'appelle Fudge, enfin, qui est un toolkit pour créer des systèmes. La particularité de ce truc, c'est qu'il a des dés un peu spéciaux, c'est des dés à trois faces avec plus, zéro et moins dessus. Donc on
Ah
en jette,
oui, j'ai vu ça, oui,
voilà.
effectivement,
On
ouais.
en jette 4 et puis ça positionne sur une échelle de réussite. Donc ça, c'est pour l'aspect mécanique. Mais ce qui est intéressant dans Fate, c'est que les personnages sont décrits par une collection de traits qui sont pas du tout numériques en fait, qui sont chiffrés, mais qui sont plus présents comme étant des descripteurs qu'autre chose. Mais
D'accord.
on en parlera à l'occasion, c'est réellement quelque chose d'intéressant. Dans
D'accord.
les jeux qui sont connus quand même pour Fate, il y a Spirit of the Century qui est vraiment le jeu emblème du système. Et puis il y a l'adaptation des Dresden Files, de la fiction avec le magicien un peu cracra en fait, Harry Dresden. Ouais, enfin bon, voilà quoi. Ils utilisent aussi le Hero System. Ils ont aussi fait une version pour GURPS. Et puis, il y a une version qui s'appelle Eclipse Med, où en gros, ils ont pris Eclipse Phase et ils l'ont collé sur le système de jeu Med, qui est un système de jeu japonisant, où on joue des servantes à super pouvoir qui travaillent dans l'ombre de nobles mystérieux, et ainsi de suite. Un truc très japonais, quoi.
Ça a l'air bien barré, ça aussi.
Oui, ça l'est. Je confirme.
Putain, j'ai
Et ouais.
jamais entendu parler de ce truc.
Ah, on en reparlera à
Oui,
l'occasion
oui, oui,
aussi.
oui,
Il y a le monde du jeu de rôle est
oui.
incroyablement riche. Bref, voilà. Donc il y a des alternatives qui existent. Et voilà. Donc en dehors du fait que le système est plus rigide que je l'aurais aimé, donc il marche quand même très très bien et n'est vraiment pas d'un niveau de complexité insurmontable, quoi.
Ouais.
C'est pas la mort, quoi. Voilà. Et puis bon, bah sinon voilà quoi. Donc c'est un système donc de pourcentage avec les réussites critiques qui sont sur les doubles. Donc quand on fait deux fois le même chiffre dans un dé, ça fait un critique.
D'accord.
Donc ça permet aussi de changer. Quelque part, je trouve que ça ressemble un peu à une non-armise pour beaucoup de points. Comme il n'y a pas réellement de santé mentale, il n'y a pas le système non plus assez riche de santé mentale de non-armise.
Oui.
Mais c'est assez voisin. Voilà. Globalement, après, pour le reste, bon, bah, c'est du tout venant, on va dire, hein. Les règles de combat ne sont pas d'une complexité affolante. Toutes les statistiques matérielles, équipements et autres sont toujours accompagnées d'une explication circonstanciée qui dit exactement à quoi ça sert. Et c'est peut-être là le réel problème de Eclipse Phase. Je pense qu'il faut quand même être doué d'une capacité de mémoire assez impressionnante, parce que quand on se prend tous les suppléments à la suite dans les gencives, on fait un petit peu de l'hypoglycémie, quoi.
Ah oui,
C'est
c'est vrai.
très 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 riche, très riche. Alors
D'accord.
voilà, mais si on n'a pas peur de toujours trouver un truc ou un bidule ou un machin, ou si on n'a pas peur des joueurs qui connaissent mieux les listes de matériel que soi, ben y aller comme ça, quoi.
Mais il y a combien de suppléments en fait?
Alors en dur, il existe 4 suppléments. Donc il y a toujours le livre de base, je ne le compte pas comme un supplément, c'est un gros bouquin en quadricromie. La qualité de l'impression va en s'améliorant d'édition, enfin d'impression en impression. Ensuite, il y a un supplément qui s'appelle Sunward, où on parle donc du Soleil, des vulcanoïdes, puis de Mercure, de Vénus, la constellation Morningstar, en fait, qui est le groupe de cités-États qui, en fait, gère Vénus, les ruines de la Terre, l'alliance de corporations, d'États indépendants qui composent, en fait, l'alliance lunaire et Lagrange, Mars, le consortium planétaire, des nouveaux morphs, de l'équipement, de l'équipement, de l'équipement, et des caractères, et des personnages, exemple.
D'accord.
Alors bon, on peut. Non, y a une belle collection de trucs. Ensuite, il y a un supplément qui s'appelle Gatecrashing, où en fait, là, l'objectif, c'est de ne pas rester dans le système solaire. En fait, on passe les Pandora Gates et puis on va se balader ailleurs, littéralement. Donc, c'est l'occasion de rencontrer les quelques groupes d'extraterrestres, vraiment extraterrestres, qui existent dans le jeu, qui sont, je dirais, plus un élément de décor que quelque chose auquel on est forcément confronté. Mais là, on a donc 5 systèmes solaires qui sont décrits, et puis, non, pardon, une trentaine de systèmes solaires qui sont décrits avec des choses, les alternatives, les endroits où certains groupes, comme le Firewall, sont en train d'établir des colonies pour protéger l'espèce, enfin la transhumanité en général. Et puis des morphes, de l'équipement, de l'équipement, de l'équipement, et puis des règles pour gérer les portails. Tout ça en quadrichromie, toujours. Ensuite, il y a l'écran de jeu. Alors, l'écran de jeu qui est à la mode aujourd'hui. Donc, c'est une planchette une planchette sur laquelle on peut couper du saucisson sans aucun problème.
Oui, c'est les écrans avec lesquels tu peux résister à une charge de Panzer.
Oui, et puis que tu peux utiliser un peu comme le... Tu vois cette bande dessinée, l'imploseur, le gars avec les valises qui se déploient et qui contiennent des lames puis du bordel, non ?
Non, je connais pas ça.
Ah, pourtant, bah là c'est vraiment le truc, t'as l'impression que tu peux le déplier et puis que tu peux trancher une tête à 20 mètres.
Oui,
mais
voilà.
Ça reste un écran assez chouette, donc l'intérieur du truc contient des tables et fait assez rare. Ils ont pensé à mettre les numéros de pages qui correspondent aux règles. Tu sais que ça, c'est un des trucs, donc, c'est mon petit, ma petite manie d'éditeur, hein, c'est il faut mettre les numéros de page des règles derrière l'écran. Et là, donc, ils l'ont fait, je suis content. Et puis.
L'écran, c'est du A4 vertical ou horizontal ?
A4 vertical, enfin, format américain, letter vertical plutôt.
D'accord.
4 volets, et puis il est plié en. Il est plié en accordéon, en fait, il n'est pas plié en fenêtre comme les anciens. Donc en D'accord. gros, il se plie comme un M, en fait.
D'accord. Ah oui, mais c'est pas lisible, du coup.
Alors si, parce que quand on le met devant soi, ben, le truc, il tient debout tout seul, de toute façon, donc il n'y a pas de problème.
Oui,
quoi.
D'accord, ok.
Mais dans le pli comme ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup pour les écrans qui ont cette épaisseur de carton-là. Mmh. Et sur la face donc joueur, il y a écrit en grand Eclipse Phase, et on voit des morphes qui sont en train d'essayer de réduire à néant une invasion de nanorobots appartenant aux titans, ou un truc dangereux, visiblement.
D'accord.
Et en arrière-plan, très loin, on voit le mont Olympe, avec à son sommet le rail, le Beanstalk, donc l'ascenseur spatial qui permet de rejoindre les étoiles depuis Olympus Mons, qui est la capitale de Mars.
D'accord.
Avec l'écran vient un scénario et un petit cahier qui contient un scénario et des trucs comme ça. C'est plutôt, je dirais que pour du jeu de rôle américain, c'est chouette, parce que c'était pas quelque chose auquel on avait l'habitude ces dernières années. Eclipse Phase vient avec énormément de matériel scénaristique. Les suppléments sont vides de tout scénario, mais par contre, j'y reviens tout de suite après le dernier supplément, il y a plein de choses à télécharger.
D'accord.
Le dernier supplément qui est paru s'appelle Panopticon. C'est le premier volume d'un duo, je pense, dans lequel on parle des habitats, donc des différentes stations et endroits d'habitation. De la surveillance en général dans le contexte, donc c'est hyper policé suivant où on est, hein. C'est clair que c'est très très difficile de disparaître. Et puis des uplifts qui sont les animaux qu'on a modifiés pour les rendre, bah, ça devient des individus. Donc la transhumanité contient donc aussi des perroquets savants, des
vraiment
singes puissants, oui vraiment, vraiment.
Mais ils ont quelle taille ?
La taille d'un gros perroquet.
D'accord.
Attends, je vais juste te donner la liste peut-être. Dans les espèces d'uplift, alors on a ce qu'on appelle les néo-hominidés.
Oui. Les gorilles, les chimpanzés, je suppose.
Les gorilles, chimpanzés, orang-outans et puis quelques autres comme ça.
Ouais.
qui ont une situation un peu tragique, je dirais, par rapport à leur situation, puisque globalement, ils ont été utilisés comme esclaves pendant un moment. Ensuite, il y a les néocétacés. Donc, effectivement, on peut jouer un dauphin ou une baleine ou un orque. Le truc, c'est que bon, dans ce cas-là, bien sûr, ça reste les morphes d'origine dans lesquels vous travaillez sont ces morphes aquatiques-là. Mais voilà, comme on peut changer de corps, comme on change de chemise, ben, on peut être un néo-dauphin. Mais en fait, l'ego, notre ego, est transposé dans un robot, donc qui est à apparence humaine.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, niveau praticabilité. Ce qui me fait penser que par rapport à Blue Planet, dans lequel on pouvait effectivement jouer un dauphin, c'est quand même bien plus pratique, parce que jouer un dauphin, c'est pas hyper ergonomique, on va dire.
Ouais, mais ils sont comme dans, bah, je suppose qu'ils sont comme dans Mare Stellaire, c'est-à-dire ils ont un harnais avec des pinces et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a du mal à manœuvrer dans les couloirs, c'est vrai.
Voilà, exactement. Ensuite, il y a les néo-avions, donc les oiseaux. Dans ceux-là, on a en gros les corbeaux, corneilles, ces bêtes-là, et puis les psittacidés comme ben, le perroquet du Gabon. À savoir qu'ils ont une réputation de bavards impénitents. Non, non. Ensuite, dans les autres, il y a les néo-octopus, octopi. Bon, en gros, tu joues un gros poulpe.
D'accord.
Ensuite, il y a les néo-cochons, parce que le cochon est aussi un animal qui a été uplifté.
Oh,
alors, leur position n'est pas hyper avantageuse non plus.
Les pauvres.
Ouais, exactement. C'est... Mais comme je disais, hein, ils ont chaque fois pris les options les plus sombres qu'ils pouvaient imaginer. Donc toutes ces espèces upliftées là,
oui.
Y compris la dernière qui est le néo-néandertal. Toutes ces espèces ont été upliftées d'abord selon des objectifs purement commerciaux, donc pour en faire de la main d'œuvre bon marché et tout. Et c'est seulement après la tragédie de la chute que certains groupes ont pu acquérir une distance et une indépendance vis-à-vis de leur maître, en fait. Ça ne va pas sans mal. Mais dans le cas typiquement des néo-néandertals, ça va aussi assez loin, parce qu'une hypercorporation a réussi à récupérer, à reconstituer le génome du néandertal.
Oui.
Et on a fait donc des esclaves. Après, il y a les animaux intelligents, donc ceux qui sont pas, qui n'ont pas les capacités pour accueillir un cortex cérébral suffisamment développé, mais qui peuvent quand même être déployés. Alors, il y a des smart dogs, smart cats, monkeys, rats et puis autres.
Ah, cool.
Ouais.
Ils peuvent faire le café ou des trucs comme ça.
Oui, ou alors ils connaissent quelques mots, une cinquantaine de mots dans le meilleur des cas. Et si tu t'étais entraîné à l'époque de Rêve de Dragon à avoir des discussions idiotes avec des avec les petits chats volants avec les ailes là qui sont bien idiots, et ben c'est l'occasion de ressortir tout cet entraînement, parce que interroger un chat intelligent, c'est très très loin du simple enfant capricieux. Puis bon, alors après, dans les règles, on a donc de nouveau de l'équipement, des règles pour du hacking d'habitat, l'infiltration. Ah oui, parce que bon, les habitats, c'est quelque chose de capital, puisque les planètes finalement sont assez hostiles, à part la Terre qui ne l'était pas. Donc, toutes sortes de stations spatiales, de vaisseaux, de trucs, errent un peu dans tous les coins du système.
D'accord.
Et ça peut donner cette impression que le système solaire, il y a des gens partout. Mais non, 300 millions d'habitants sur la surface totale, sur le volume que représente le système solaire,
c'est rien, quoi.
C'est rien du tout. Ouais. Donc ça, c'est pour, je dirais, les suppléments qui existent uniquement, enfin qui existent sous forme physique.
Oui.
On peut les trouver en PDF et puis en hackpack.
Ouais.
Sinon, à côté de ça, il y a une collection de choses qui ont été publiées uniquement sous format PDF.
Oui.
Alors, le dernier qui est sorti, que je n'ai pas encore récupéré, c'est un truc qui présente quelques vaisseaux spatiaux, en fait. Des caboteurs qui transfèrent de l'équipement de monde en monde, et puis avec leurs équipages, et probablement quelques règles.
Et de l'équipement.
Et de l'équipement, j'allais oublier.
Donc, c'est un jeu qui te plaît plutôt, finalement.
Ah ouais, complètement, ouais. Ah, je suis conscient des défauts, enfin en tout cas les défauts que moi je lui attribue,
Oui.
mais ça ne m'empêche pas de considérer que c'est réellement une des meilleures choses après le fil à couper le beurre qui a été inventé ces 20 dernières années. Non, j'exagère. En fait, il y a des jeux qui m'ont probablement plus touché qu'Eclipse Phase, mais Eclipse Phase présente un cocktail d'éléments, de contextes futuristes, horrifiques et autres que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien fait.
Très original.
Très original par rapport à d'autres jeux de rôle, enfin à l'histoire du jeu lui-même, mais qui fait une bonne synthèse des évolutions de la science-fiction et puis du space opéra et autres. Voilà, alors juste comme ça, dans les trucs en PDF qui existent, il y a des scénarios, les étoiles, notre destination, donc
Oui.
c'est le dernier qui est sorti, donc Stars, Our Destination. Là, c'est que du PDF, c'est 5$. Ou alors on peut le télécharger, hein, parce que bien sûr c'est tout. Mais bon, 5$ c'est bien. Ego Hunter, là où on joue une équipe
Chasseur d'ego.
Ego Hunter, en fait, on joue tous un fork du même personnage, parce que comme on peut faire des copies de soi-même, on peut aussi en faire plusieurs instances, n'est-ce pas?
D'accord, ok.
Ensuite, Continuity, là aussi une histoire un peu d'exploration de bases distantes. Ouais, c'est un scénario intéressant aussi. Après, il y a des caractères, enfin des personnages pré-tirés,
Ouais.
aussi en PDF. Et puis, ils ont sorti aussi sous forme de fichiers mobiles, donc on peut les lire sur le Kindle ou sur d'autres, en EPUB, PDF aussi. Ils ont sorti des versions, des nouvelles en fait qu'il y a dans chacun des suppléments.
OK.
El Destino Verde et ainsi de suite, quoi. Voilà.
D'accord.
Après, encore un dernier point sur les publications, au fait, avant que j'oublie, il existe donc, bon, il existera bientôt une version française, mais en anglais, il y a une communauté qui s'est déjà constituée, donc Firewall Darkcast, et puis un zine qui existe, qui en est à son 4e numéro déjà, donc c'est un zine gratuit qui s'appelle DA, qui ajoute des visions personnelles de tout un tas de trucs. Il y a même un morph spécial le 1er avril qui s'appelle le Smurf, donc c'est des petits morphs bleus avec un bonnet blanc. DA, en fait, c'est l'élément important des règles auquel j'ai complètement oublié de faire référence, c'est que, en fait, comme le système social a évolué, le système monétaire s'est effondré complètement avec la destruction de la Terre.
Oui.
Globalement, l'économie s'est reconstruite autour de deux pôles. En fait, globalement, dans la partie Sunward, on utilise le crédit, donc qui est une unité monétaire.
Oui.
Mais partout dans le système, autrement, on utilise aussi des réputations qui sont en fait calculées et développées à travers des réseaux sociaux. Donc en fait, si tu veux obtenir un truc, par rapport à ta réputation dans tel ou tel réseau social, ce sera plus ou moins facile à obtenir, plus ou moins cher, et ainsi de suite, quoi.
Il y a ça dans Free Market aussi, même.
Exactement, oui, c'est la même idée, c'est le même principe. Donc là, sur le personnage, ça se concrétise, ça se matérialise par des scores dans différents reps. Donc il y a IREP, qui est en fait la réputation qui est associée au Firewall, donc DI,
Ouais.
c'est pour ça.
Ensuite.
Le AREP, qui est en fait la réputation des groupements anarchistes. Le R-REP pour les trucs de recherche scientifique et tout, et ainsi de suite, quoi. Donc en gros, on peut avoir un personnage qui a des fortunes diverses, parce que voilà, il a plein de thunes, mais personne ne l'aime, donc. Bien, bah, je sais pas si tu as encore des questions, là, moi je pense que j'ai un peu fait le tour, et puis.
Non, je pense que c'est j'ai bien le je vois bien le jeu maintenant et c'est bien ce que je pensais, ça a l'air super intéressant. Moi je vais attendre la traduction du bouquin complet. Ah oui, tu me parlais tu me disais que c'était pas très bien traduit le kit d'intro.
Oui, alors on peut obtenir chez Black Book une version française du kit d'intro qui donc présente déjà offre donc une présentation assez large de l'univers de jeu avec une version allégée des règles qui suffisent bien d'après moi. Un petit scénario et puis une poignée de prétirés. Mais j'ai un peu souci parce que la qualité de la traduction, à mon sens, n'est pas à la hauteur du matériel initial. Et j'ai honnêtement, je suis très 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 curieux de voir ce que Black Book va faire avec le projet entier, comment le texte sera traduit, si c'est seulement par manque de temps que le machin a été un petit peu loupé, quoi.
Oui, ouais, là, sur un kit d'intro, bon, à la rigueur.
Ouais, mais c'est quand même un peu dommage, parce que y a pas grand-chose en fait, mais c'est simplement que les tournures de phrases font qu'il y a y a clairement des trucs qui ont été traduits littéralement et sans vraiment réviser le style. On sent vraiment que le truc a été traduit comme ça, boum, d'accord? Mais voilà. Bon, ça ne le rend pas inutile, hein. Il est quand même. Si je râle à cause de la qualité de la traduction, c'est uniquement parce que je suis un maniaque, c'est tout, hein. Faut pas.
Bon, bah écoute, merci beaucoup Antoine, c'était vraiment très très intéressant. Et il faudra faire un truc sur les systèmes, ça pourrait être très sympa.
Ouais.
Bon, en attendant, eh bien, nous allons retrouver tout de suite donc l'interview de Christophe que j'ai fait il y a donc 6 mois. Et bon, vous excuserez la piètre qualité de l'enregistrement, mais il y avait quand même pas mal de monde. Donc il y a un peu de brouhaha derrière nous, mais c'est tout à fait audible. Et en plus, ce qu'il dit est intéressant. Donc voilà.
Pour ceux qui ne savent pas, la convention à laquelle David fait référence, c'est la convention Orchidée qui se déroule chaque année à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et qui est en gros actuellement la grosse convention qui se déroule en terre romande. Et c'est un peu un passage obligé pour les gens de la communauté locale des rôlistes en fait.
Oui,
Mais
tout
c'est
à
très
fait.
sympa.
Oui, elle est très très bien cette convention.
Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Et je suis aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'être avec le tout-puissant Christophe Beuclet. Bonjour Christophe, enfin bonjour maître.
Non mais salut Cobal, merci pour ton invitation à ton podcast, ça me fait très plaisir.
Eh bien,
restons
écoute,
familiers, hein. On n'est pas.
Voilà. Ne faisons pas les gens qui font semblant de ne pas se connaître.
Voilà.
Donc, que je te resitue un petit peu. Donc, ça fait depuis combien de temps depuis 2006, quelque chose comme ça, que Silent Drift existe.
Alors, ce site existe sous plusieurs formes depuis 2002 déjà.
Depuis 2002.
C'était essentiellement un site personnel.
Oui.
Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. Et puis, je dirais vers 2004-2005, on avait été une première équipe à se retrouver là-dessus pour discuter de jeux en développement.
Oui.
Et ensuite, à partir de 2007, j'ai refondu le forum pour en faire quelque chose d'assez proche dans la structure à The Forge.
Oui.
Tenu par Ron Edwards, dont tu as parlé dans un podcast
oui,
précédent.
Oui, j'en ai parlé de ouais. The Forge.
Donc, l'engagement particulier pour le jeu de rôle indépendant date à peu près vraiment officiellement, je dirais, de 2007, peut-être 2006, on voyait déjà les premiers signes. Avant, j'avais pas ce concept, c'était juste des gens qui faisaient leur jeu. Et puis...
Oui, d'accord.
Donc, voilà.
Et donc, Silent Drift, c'est avant tout un forum.
Voilà.
Donc,
ce n'est pas un label, ce n'est pas un collectif d'auteurs, c'est des gens qui se rencontrent pour discuter de jeux de rôle.
C'est plus un collectif de réflexion.
Réflexion sur la pratique, pas mal.
Oui,
les rubriques
oui.
sont pas mal orientées pratiques. On discute nos parties, pas seulement la fiction qui s'est faite, mais aussi les règles qu'on a utilisées, ce qu'on a dit hors jeu pour se mettre d'accord.
Oui, ah oui, oui, tous les à côté.
Voilà, et puis on essaie de voir. On se pose des questions là-dessus. Si on enlève le MJ, comment est-ce qu'on doit gérer les tâches qu'avant le MJ gérait tout seul?
Oui.
Comment est-ce qu'on les répartit? Par exemple, ouais. Ben est-ce qu'on constate que l'utilisation des dés à un moment interrompt les conversations ou plutôt les soutient?
Oui.
On va arriver peut-être là-dessus. J'ai un exemple. Donc, mon exemple favori est là-dessus. Ce sera Dogs in the Vineyard.
Oui.
Qu'on discutera tout à l'heure.
Tout à fait. On va aborder quelques jeux indépendants, disons qui sont on va dire particulièrement représentatif d'un certain état d'esprit de création.
Des jeux assez particuliers qui ont bien fonctionné aussi, ceux que tu as choisis là, Polaris.
Pardon ?
C'est des jeux qui ont bien fonctionné dans leur petit milieu. ce que tu as
oui,
Polaris, Dogs in the Vineyard et Pool.
Et The Pool, ouais. Oui.
Donc, est-ce que je donne une petite définition du jeu de rôle indépendant?
Ah, ça peut être pas mal, étant donné ouais, que...
on va en parler un peu.
Étant donné que Silent Drift est particulièrement, enfin, soutient particulièrement ce type de démarche.
Voilà, enfin, il ne soutient que cette démarche.
Que ce type de démarche.
Les autres, pourquoi pas, s'ils y trouvent leur compte, mais le site ne fait rien pour eux, ça c'est vrai. Donc en fait, ouais, arrêtons le mystère, c'est un jeu de rôle indépendant, c'est juste un jeu dont l'auteur détient les droits.
Oui.
Et qu'il... un jeu où c'est l'auteur qui décide comment il est commercialisé essentiellement.
D'accord.
Comment il est réalisé, comment il est commercialisé, comment il est diffusé.
Ouais, d'accord.
Alors je parle d'auteur, c'est pas forcément un auteur seul, même si c'est souvent le cas, ça peut être un collectif. Bah, typiquement au crime qu'on a en face de nous, l'auteur est à la fois celui qui détient les droits, celui qui le diffuse, celui qui le crée. Donc,
D'accord.
Et
alors, qu'est-ce que tu penses des démarches qui consistent, par exemple, à utiliser le texte d'un auteur indépendant et faire une mise en page et des illustrations différentes pour le revendre? Est-ce que c'est toujours un jeu indépendant, selon toi?
C'est une excellente question. Il faut voir déjà ce que l'auteur de base pense de cette idée. Si lui, il a un accord avec les personnes pour faire une édition funky, nouvelle mise en page,
oui,
il est d'accord, ben, il peut bien sûr, entre guillemets, déléguer la mise en page à quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Ça, tant qu'il en garde le dernier mot reste pour l'auteur ou le collectif d'auteurs.
Mais par exemple, dans le cas d'une traduction, c'est encore plus spécial parce que là, tu perds les mots de l'auteur lui-même.
Oui, mais... D'accord, oui, ça, alors ça c'est vraiment c'est difficile à dire.
Oui.
Il y a peut-être un peu une limite, mais ce qui fait vraiment la distinction pour moi, c'est le fait que c'est l'auteur en personne qui signe le contrat pour la traduction.
Enfin, oui, d'accord. Oui, oui.
Qui est d'accord avec de bosser avec toi, qui est d'accord avec les conditions. Et bon, après, il te fait confiance.
Oui.
Parce que la plupart du temps, ils ne savent pas le français, ou je sais pas, c'est pour ça qu'ils se le font traduire par d'autres. Mais ils gardent le contrôle. Et puis, ou alors, là, ça se présente, je pense. Sous la forme de celui qui veut traduire s'adresse à l'auteur, lui propose un plan, et l'auteur dit oui, ça me convient ou ça me convient pas.
D'accord.
C'est pas un éditeur qui dit et toi tu vas c'est bon, tu peux faire ça, on s'en fout de l'auteur.
C'est pas un
manager qui décide à la place de l'auteur qu'est-ce qui est fait, mais ça permet tout à fait des collaborations, de déléguer une partie du travail, classiquement les illustrations, la mise en page.
Parce que je connais certains grands auteurs américains qui auraient bien fait de prendre des vrais illustrateurs. Parce que ça nuit gravement au jeu.
Alors effectivement, ça c'est un truc qui peut peut-être étonner les gens, c'est que sur Silent Drift, je n'exerce aucun contrôle sur la qualité. On peut demander, un auteur indépendant peut me demander une rubrique, pour autant qu'il soit indépendant, selon cette définition. Mais s'il écrit quelque chose qui, à mon humble avis, est nul, je ne l'empêche pas. C'est pas à moi de décider qu'est-ce qui est bon ou pas bon.
D'accord.
Moi, je parle juste de ce principe économique.
D'accord.
Il n'y a pas besoin de faire des preuves. Si je trouve le jeu pas joli parce que je trouve pas joli parce que voilà les goûts et les couleurs, c'est pas un critère du tout. C'est vraiment l'enthousiasme aussi pour la personne, de la personne pour l'enthousiasme pour l'indépendance. Qui compte.
Oui, d'accord. Et la démarche qu'elle amène avec son jeu ou le.
Oui, mais ça,
les idées qui sont rattachées.
C'est que si il se donne la peine d'être indépendant, c'est qu'il a quelque chose à apporter, qu'il est motivé. Et puis je dois dire, jusqu'à maintenant, je trouvais vraiment chouette tous les jeux qui se discutent sur Silent Drift. Donc, en fin de compte, j'ai.
T'as plutôt de la chance pour le coup.
Ouais.
Mais allez, Silent Drift, c'est quand même un gros nid d'intellectuels.
Intellectuel, si on accepte de dire que c'est intellectuel de parler de ces parties qu'on a jouées le soir d'avant, ouais, d'accord.
Non, mais c'est une réflexion qui est. Ça amène des réflexions théoriques. Qui sont plus que de dire t'aurais dû rajouter un D6 à ton barbare.
Oui, ça peut, des fois c'est juste c'était trop chouette la partie, regardez, on s'est bien amusé.
Oui, des fois ça peut être
aussi ça, mais Alors des fois, effectivement, on pourra creuser, peut-être plus loin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais...
que vous allez voir, voilà. De toute façon, il n'y a que sur ce forum quasiment qu'on peut trouver ce genre de choses.
C'est vrai, oui.
Et maintenant, sur, peut-être un petit peu sur narrativiste.eu.
C'est un site dans lequel je n'ai rien à voir. Ouais. Je ne suis pas, partie de l'idée de base, ni de son exécution, ni de son entretien. Je suis ravi qu'il existe.
Ouais.
Parce que il y a beaucoup. On reproche à Sandrift que c'est trop dirigé sur quelque chose de précis. L'indépendance à tout prix, par exemple.
Oui, oui, tout à fait.
Et en fait, moi, il y a aussi un côté pratique, c'est que je ne vais pas modérer un forum trop grand.
C'est vrai que c'est l'avantage.
Ça me coûterait trop de temps. Donc en fait, je suis content qu'il y ait d'autres sites comme ça qui se. Comme narrativiste.eu qui se lance et qui propose une autre approche à des jeux.
Oui.
Ouais, innovant ou je crois que c'est surtout ça le ce qui botte Maître Singe.
Ouais.
C'est des jeux innovants.
Ouais, c'est vrai que la plupart de ceux qui sont proposés
c'est des jeux
Lady Blackbird tous ces trucs là
voir des jeux carrément sans MJ, des hybrides
Archipelago, ça. Enfin, c'est pas du GN Archipelago, mais c'est du 100MJ par contre.
Voilà. Et puis, Donc, moi, je trouve ça chouette. L'idéal pour moi, ce serait qu'il y ait toute une constellation de petits sites comme ça, en fait, qui se partagent,
Les orientations.
Les orientations, même s'il y a un peu de recouvrement.
Oui.
Ça c'est toujours bien, mais. Voilà, qu'on ait plusieurs angles à la discussion. Je pense que ça arrange aussi les gens qui. Ceux qui apprécient moins l'attitude sur Silent Drift, ils se trouvent en terre leur compte sur narrativiste.eu.
Ouais. C'est vrai que le forum de ce deuxième site est un peu plus détendu.
Oui, c'est tout différent. Ouais.
Les conditions de poste sont moins drastiques.
Peut-être, oui.
Donc, on va reprendre ce qu'on voulait dire tout au début. Donc, tu vas nous parler de ces trois jeux emblématiques. Des jeux indépendants on va parler de The Pool de Dogs in the Vineyard et de Polarist. Alors on va commencer par le plus simple a priori, donc The Pool,
et c'est aussi le plus ancien, c'est le Pool écrit par un certain James West qui fait aussi de la bande dessinée je crois sur son site randomordercreations.com je pense.
Ok.
C'est là qu'on peut télécharger le jeu. Poule. Qu'est-ce que tu voudrais savoir à ce sujet, en fait?
Alors,
comment est-ce que j'introduis la discussion?
Eh bien, dis-nous un petit peu comment ça marche et quels sont les ressorts de ce jeu. Qu'est-ce qui fait qu'il est agréable à utiliser et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, finalement, dans la façon de jouer?
Je crois que le truc le plus important dans ce jeu, qui en fait est qu'un système de résolution, de résolution d'action. Il y a un peu on parle aussi d'évolution du personnage, mais il n'y a pas de monde qui est proposé. On n'explique pas au MJ comment il doit maîtriser ce jeu.
Oui.
Donc, ce qui est vraiment innovant avec ce jeu, à mon avis, donc je crois que ça date de 2002, c'est qu'il propose un système de résolution. Ou si on réussit l'action, on décide si on décrit soi-même à la place du maître de jeu quelles sont les issues de cette action.
D'accord, très bien.
Ou alors on peut décider de renoncer à ça, prendre un dé, c'est la ressource du jeu, c'est des dés à 6 faces, donc prendre un de plus pour soi, alors on laisse la parole au MJ.
D'accord.
En cas d'échec, c'est de toute façon le MJ qui
récupère
qui raconte.
Ouais.
Donc ce qui est intéressant à mon avis là-dedans, c'est vraiment... qu'on formalise, qu'on accepte explicitement dans le texte que
le MJ
c'est la même personne, c'est pas toujours la même personne qui raconte l'issue d'une action.
D'accord.
Et je crois que ça ouvre pas mal de possibilités après coup.
En fait, ce qu'il apporte pour la première fois ou presque, c'est de partager la narration. Avec les joueurs qui restent dans leur rôle de joueur à part ça.
Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont inventer le monde à la place du maître de jeu.
Oui.
On pourrait jouer comme ça, mais ça devient vraiment bizarre. Ça part vite dans les délires surréalistes.
J'ai déjà joué, par exemple, à Panthéon.
D'accord.
Où il n'y a pas vraiment de MJ, puisqu'on joue par vote.
Oui.
Et le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de trucs prévus pour faire en sorte que les joueurs s'entendent à l'avance.
D'accord.
Sur le type d'aventure en fait que tu vas faire.
Voilà.
Parce qu'on était deux moitiés de table. Il y en a une moitié qui a fait du Loonies avec des personnages débiles et tout ça, et une autre moitié qui voulait faire un jeu d'horreur.
D'accord, ouais, ça c'est.
Donc c'est devenu assez rapidement n'importe quoi.
On verra peut-être dans Polaris, quand on parlera de Polaris, comment on arrive à créer cette union de esthétique ou de la vision derrière le jeu.
Vision commune, ouais.
Voilà, vision commune.
Donc pour The Pool, tu as fait le tour de.
Est-ce que je voulais encore dire quelque chose à ce sujet? Non, je crois que. Ouais, donc c'est vraiment. Je vais juste extraire cette caractéristique-là vraiment de ce jeu.
Uh-huh.
Après, c'est un système de résolution qui a ses particularités, mais
oui.
Le point vraiment important, à mon avis, c'est qu'on permet vraiment la description des conséquences des actions.
Oui.
Pas de l'invention du monde, c'est pas le, uh-huh. Je pense pas que ce soit ça le but, mais ça peut apporter de la fraîcheur au jeu, je pense.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Et alors maintenant, passons à un autre grand classique, et là dans un univers vraiment très particulier, qui est donc Dogs in the Vineyard.
Oui.
Donc, est-ce que tu peux présenter un petit peu le contexte de ce jeu
Alors, c'est un jeu qui est un mélange entre western et roman noir, je dirais, dans une première approche. Et plus particulièrement, ça se passe dans une partie de ce qui deviendrait les États-Unis, et on joue des membres d'une communauté religieuse fortement inspirée de l'église mormon.
Des mormons, oui.
Des mormons, oui. L'auteur lui-même est en fait né dans la religion mormon.
D'accord.
Et c'est un peu un tribut à ses origines. Et on joue des gens qui représentent à la fois l'autorité religieuse mais aussi
judiciaire,
ouais. Donc on joue c'est un peu bizarre parce qu'on joue des jeunes qui font ça un peu comme un rite de passage à l'âge adulte.
D'accord.
Ils constituent un groupe comme ça, ils reçoivent la bénédiction de leur église et ils passent de village en village. Et c'est là que c'est un peu roman noir parce qu'il y a un côté on vous révèle tout ce qui est un peu ce qui se passe pas net chez les gens.
Oui.
Un tel trompe sa femme, un autre il veut marier illégalement, voilà, il y a un enfant naturel, il y a quelqu'un qui a tout simplement tué quelqu'un d'autre.
Oui, surtout dans une société hyper rigoriste où toutes ces choses sont cachées.
Et alors, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il donne quelques bases sur cette religion dans le bouquin, mais en fin de compte, les jugements, ils ne sont jamais soutenus par le livre de règles. Tu peux pas dire... Ah, lui, il a tué quelqu'un, donc il mérite la peine de mort. C'est pas clair. Donc, en dernier ressort, ce sera toujours aux joueurs de juger les gens selon ce qu'ils imaginent être cette religion, selon ce qu'ils ont envie de dire
D'accord.
à leur personnage, quelque part.
Ok.
Donc, voilà, donc on passe de village en village, on rétablit l'ordre et le bonheur chez les gens, à coup d'armes à feu si nécessaire. Et. Une particularité de ce jeu aussi, c'est je dirais le système de résolution qui prévoit en fait autant des conflits qui se basent sur la parole, donc un débat, que le combat. Donc il y a plusieurs une gradation qui passerait donc de la discussion
à l'engueulade à la controverse
un conflit physique mais non violent, par exemple une course à
d'accord,
cheval
okay.
ou alors un conflit physique sans armes à feu et le truc le plus poussé c'est les armes à feu. Il y a des règles un peu spéciales parce que ça part toujours un peu il y a toujours des gens qui se prennent des balles perdues Donc, c'est un jeu qui est un peu basé sur le poker dans le sens où chacun va faire une relance. En utilisant ses dés, il va annoncer un résultat tout en décrivant l'action de son personnage. Et l'autre doit commencer par égaler la mise, si on veut, avec ses dés. Et ensuite, s'il veut continuer le conflit, relancer. Et le but, c'est qu'on a fixé un enjeu à un conflit. Par exemple, je veux te faire avouer ton crime. Et celui qui se couche, quasiment, concède cet enjeu à l'autre.
D'accord. D'accord.
Alors le truc, c'est qu'on risque de vouloir aller assez loin. Et puis, si la discussion ne suffit pas, on va peut-être en arriver aux mains.
D'accord. C'est-à-dire que finalement, tu peux toujours gagner en empirant les choses.
Voilà. Le système te pousse à aller loin.
D'accord.
Et après, il y a un système. Enfin, selon les dés utilisés, la personne en face, elle s'en prend plein la gueule. Après, tu es très fier de l'avoir fait avouer. Mais en fait, il est en train de gir dans une mare de sang. Il y a son gosse qui était juste à côté, voilà, t'as tué le père devant son enfant, c'est un peu moche, quoi. Donc il y a toujours un peu ces situations un peu tendues.
Oui, où la morale est jamais vraiment sauve.
Et voilà, et d'une partie à l'autre, ce qu'on observe dans ce jeu, c'est que l'équipe de juges, en fait, ils développent chacun un peu une sensibilité particulière, et c'est pas clair qu'ils s'entendent jusqu'au bout. Puis ça peut devenir un peu un showdown à la western. Pour des questions d'excès. Donc, est-ce que tu veux que j'aille plus dans les détails ou...
Écoute, non, c'est très bien, ok.
Et là
parfait.
Aussi,
oui.
On peut voir un peu l'héritage du pool dans le sens où, selon qui c'est qui l'emporte dans la mise
oui, pour le conflit, ouais.
C'est ça qui détermine qui c'est qui raconte l'issue.
D'accord, ok.
Donc
c'est celui qui remporte la mise...
Dans la suite logique de ce qui a été raconté.
Oui, d'accord.
Mais selon l'idée aussi.
D'accord.
Et c'est pas forcément le MJ. C'est ça l'héritage du pool dans ce jeu-là, je dirais.
C'est un jeu à MJ.
Ça, c'est un jeu à MJ, oui.
D'accord.
Le MJ prépare le village avec son chenille.
D'accord.
Avec tout ce qui va mal.
C'est PNJ, c'est machin, c'est secret.
Voilà, et puis c'est pas un jeu à enquête dans le sens où il faut assez vite révéler ce qui se passe parce que sinon on n'arrive jamais à la phase jugement.
Oui,
qui est vraiment
ce qui est le plus intéressant, qui est le cœur du jeu. Oui.
Voilà. Et après, on passe à un nouveau village et puis.
en laissant le précédent en flamme.
Par exemple, ça peut arriver. Des fois, ça se passe bien aussi. Donc...
Ah oui, des fois, il y a des enquêtes qui se terminent bien.
Oui, oui. Mais bon, en général, on finit par brûler une sorcière ou.
D'accord.
Il y a...
Ah oui, et donc. Et donc, comme tu dis, c'est plutôt un jeu de campagne parce qu'il te pousse à...
Semi-campagne, ouais.
D'accord. Enfin, il faut que les personnages évoluent suffisamment entre eux pour...
Pour se positionner vraiment par rapport à cette foi qui est un peu floue. Vincent Baker, son auteur, dit que le jeu décolle à partir de la troisième partie.
D'accord.
Et je sais plus ce qu'il préconise, mais peut-être une dizaine de parties, puis après, ça se termine en général.
D'accord, d'accord. Ah oui, c'est plutôt un jeu, finalement... de longue galette pour obtenir un résultat vraiment sympa.
Je pense que tu peux la jouer en 4 heures une fois que t'es bien rodé. Ouais.
D'accord, ok.
Donc, ouais.
Très bien.
Enfin, un village, donc, ouais.
Eh bien, ok, je pense que là, on a bien fait le tour de ce jeu. Donc, le dernier sur lequel je suis tombé, j'en avais entendu parler... Et je l'ai lu un petit peu en diagonale vite fait et ça a l'air vraiment super bien. Alors est-ce que tu peux en dire plus?
C'est donc Polaris dont tu parles, non?
Ouais, de Polaris.
Donc ça c'est un jeu tragique, de tragédie, plutôt un jeu de tragédie. Je sais pas s'il est tragique à jouer.
Qui permet de créer des tragédies.
Voilà, merci Cobal. Donc ça se passe au pôle Nord,
oui.
Dans un monde, dans une ville de glace. Les gens habitent, donc ils connaissent pas le soleil en fait, c'est ça l'astuce. Ils ont développé une culture extrêmement raffinée au pôle Nord. Ils ont des palais de glace somptueux. Ils développent les arts à fond. Ils connaissent l'astronomie, tout ça. Toujours les étoiles qui brillent, bien sûr. Et il s'est passé un truc. On ne sait pas exactement quoi. C'est-à-dire que le bon roi Polaris aurait a trompé la reine. Peut-être que. Les gens ont commencé à adorer une nouvelle étoile qui apparaissait à l'horizon. Quelque chose, on ne sait pas, c'est pas clair. Il y a des pistes comme ça qui sont proposées dans le bouquin, mais on ne répond pas à la question. Mais toujours est-il que le soleil s'est levé.
Ah, et tout a fondu.
Et en même temps, il y a des démons qui sont apparus au cœur de la cité, à travers un énorme puits qui s'est... Donc la ville s'est effondrée au mieux. Et régulièrement, au printemps, les démons sortent et attaquent les vestiges de la ville. Et les joueurs vont jouer les derniers défenseurs de cette civilisation. Donc c'est les chevaliers de l'ordre stellaire qui vont donc tenter le tout pour le tout pour sauver leur peuple. Ce qu'on sait en tant que joueur, c'est que notre personnage va soit finir par mourir
pour sa cause,
son peuple, voilà.
Ouais.
Ou alors il va finir par trahir son peuple et rejoindre les démons. Un des démons majeurs, c'est le chevalier Solaris, qui représente le soleil, peut-être rejoindre sa cause. Donc voilà, on sait que ça va mal se passer par rapport à cet objectif de sauver son peuple.
Et à partir de là, on sait que c'est une histoire triste qui va mal se terminer.
Voilà, donc il faut accepter ça, puis après on se lance. Ça se joue sans MJ, le bouquin propose de jouer à 4, on peut jouer à 3 ou 5, mais le truc
idéalement, canonique, c'est à 4.
Dans une scène, il y en a un qui joue vraiment son personnage. Celui qui est assis en face va jouer les démons. Celui à sa gauche, si je ne me trompe pas, joue sa famille, ses amis, son côté affectif, ses relations affectives, si on
D'accord.
veut. Et à sa droite, c'est celui qui joue les relations plutôt politiques.
D'accord. Les relations sociales non affectives, en fait.
Voilà, quelque part.
Okay.
Et donc on raconte, c'est assez libre ce qui se passe.
Oui.
Chacun étant un peu maître de son domaine, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un conflit.
Oui.
L'exemple classique que j'aime prendre, c'est je pourfends un démon avec ma lame de lumière d'étoile.
Uh-huh. Donc celui qui joue le démon n'est pas d'accord.
Donc celui qui n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On entre dans la phase conflit où les deux joueurs de relations sociales prennent un rôle secondaire et c'est vraiment le joueur des démons et le joueur du chevalier qui s'affrontent dans une sorte de négociation. C'est comme l'idée qu'on a, on négocie avec le démon.
D'accord.
Et ça se fait avec des phrases prédéfinies.
Oui.
La phrase de base, c'est « mais seulement si ». Alors, par exemple, moi je dis « je pourfends le démon », et toi tu pourrais répondre « mais seulement si ».
C'est avec une épée qu'on se fait en, je sais pas quoi, en pas d'épices.
Alors ça fout en l'air complètement l'imagerie du jeu.
Oui, mais c'est...
Mais tu jouerais plutôt le démon. Tu dirais, c'est seulement le sang du démon détruit ton arme.
Oui, voilà,
ou alors qu'il se jette dans un puits avec toi. Parce que t'as l'épée qui se coince. Tu joues quand même le côté démon.
D'accord.
C'est vrai, tu pourrais introduire le pain d'épices, mais ce serait un peu...
Tu as raison, ça détruit...
Vu tout le contexte, ce serait un peu dommage.
Ouais.
Et après, je dis, il n'en sera rien... Alors maintenant j'ai un blanc. Non, cela ne devait pas être et on annule nos deux actions.
Oui.
Chacun une.
D'accord.
Et puis on annule.
On revient à la situation précédente.
Ou alors je rajoute un mais seulement si. Et c'est cette escalade de la violence qui.
D'accord.
Il y a quelques phrases qui permettent d'être encore plus incisif.
Ok.
Qui font appel à des ressources après particulières du personnage. Il y a quatre caractères. Il y a essentiellement quatre catégories de traits qui décrivent un personnage, c'est son destin. On va noter des idées de ce que pourrait être son destin. Donc on peut invoquer son destin pour utiliser ses phrases plus puissantes. Par exemple, une qui est de surcroît, qui en fait a le même effet en quelque sorte que « mais seulement si », sauf qu'on ne peut pas répondre avec « seulement si ».
D'accord.
Donc l'autre doit aussi utiliser ses ressources. On entre dans un autre niveau de conflit.
C'est en fait, tu dépenses des points liés à la définition de ton perso pour enrichir certaines actions.
Exact. Pour avoir plus de poids dans le conflit, en fait.
Ouais.
C'est comme ça que se résolvent les conflits. À un moment, il y en a un qui dit « il en sera ainsi », puis on arrête là.
Okay.
Parce qu'on va pas aller plus loin, parce que ça suffit. Et quand le... À certaines conditions, notamment quand le personnage fait quelque chose qui n'est pas très chevaleresque ou qui dénote sa perte de foi en sa cause, on va vérifier, il y a son score de zèle, qui est un autre aspect de du personnage qui risque de descendre. Et à ce moment-là, on va faire évoluer le personnage vers le côté, vers son destin tragique,
oui.
Gentiment.
Uh-huh.
C'est aussi à ce moment-là que ses ressources utilisées redeviennent disponibles.
Ah, c'est à chaque fois qu'il fait un pas vers son destin, en fait.
Alors, non, là, j'ai un blanc. Alors, les auditeurs devront vérifier dans le livre. Est-ce que c'est exactement... c'est pas sûr. Il y a un lancer de dés à faire, en fait.
D'accord, ok.
Je me rappelle plus des détails par cœur, là.
Et en fait, au bout de combien de temps est-ce que une session de Polaris se termine... Enfin, je veux dire, est-ce que chaque session de jeu... C'est on va du début à la fin du personnage ou c'est sur le long terme?
Alors on va jouer une scène avec un personnage et ensuite on passera au prochain personnage.
D'accord.
Et
okay.
On va tourner et puis j'ai une fois réussi à faire une campagne en 4 ou 5 séances.
D'accord.
Mais puis okay. On a accéléré le rythme. Donc je pense une demi-douzaine c'est quand même le minimum pour faire une campagne entière. Puis justement, il y a des choses qui se passent régulièrement quand le zèle diminue. Et quand le zèle arrive à zéro, c'est pas la fin. Après, on entre dans la phase... comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Lassitude.
Ouais,
déception,
ok.
Déception, quelque chose comme ça.
Ouais,
Il y a une scène pivot.
Où il n'y croit plus.
Voilà, c'est à partir de là qu'il peut mourir le personnage, en fait. Mais seulement si le démon lui accorde. Ça s'utilise avec une phrase clé. C'est avec un « mais seulement si mon personnage meurt ». Puis le démon, lui, va plutôt être en... essayer de prendre le chevalier de son côté forcément. Donc mourir c'est un moyen de ne pas trahir.
Ah,
donc ça se
demande oui, d'accord,
à partir de cette phase là mais avant d'entrer dans cette phase là il y a une scène pivot qui va se jouer avec une rencontre avec le chevalier Solaris, le champion des démons si on veut, ou la dame de givre qui probablement, on sait, c'est pas clair, est la reine, l'épouse du roi Polaris qui a sombré, en fait. On ne sait plus où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, il y a un peu c'est un peu une scène qui prépare la chute ensuite. Quoi. Voilà. Et ça fonctionne sans MJ dans le sens où il y a quand même une répartition très claire des rôles au sein d'une scène.
D'accord, mais ce sont des rôles tournants.
Non, voilà.
D'accord. Bah, c'est un peu sur ce coup, c'est un peu le même principe qu'Archipelago.
Je ne connais pas Archipelago.
Quoi, tu n'as pas lu ma traduction?
Non, je n'ai pas lu ta traduction, je suis navré. Mais je me rattraperai maintenant.
Je te montrerai ça. J'amènerai la trad demain.
Ok.
Bon, eh bien, écoute, voilà, je pense que ça permet d'avoir un petit aperçu
voilà.
de tous ces jeux qui apportent, qui apportent vraiment quelque chose dans le sens où ils donnent des façons de jouer qui sont... complètement différente de celle dont on a l'habitude et par exemple soit que ce soit pour précipiter la mort d'un personnage ou le précipiter vers son destin ou prendre une partie de la narration ou que celle-ci tourne au sein de groupe, chaque jeu indépendant ayant quand même une petite ambition permet ce genre de choses et de découvrir encore plus de choses du jeu de rôle. Eh bien écoute, merci beaucoup Christophe.
Je t'en prie, c'était un plaisir.
Et
merci
à bientôt.
À toi.
Ciao.
Ciao.
Bon, eh bien, j'espère que cette interview vous a plu, et puis je vous remercie de nous avoir écoutés, et puis à très bientôt. Allez, ciao!
Salut à tous!